Shalom, dans notre cours précédent sur Gog et Magog, on expliquait un peu de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'était que Gog et Magog. On avait évoqué qu'il y avait deux prophéties, deux scénarios possibles, le bon et le mauvais. On a évoqué le bon scénario, on a fini là-dessus, et j'ai évité de dire le mauvais, il fallait quand même en parler, parce qu'il existe. Il se trouve écrit dans Zacharie, prophète Zacharie, fin chapitre 13 de Zacharie, début 14. Alors, je vous lis le texte dedans, qui est très parlant. Il arrivera que dans tout le pays, en hébreu, Bechol Haaretz. Haaretz signifie, peut signifier, les commentateurs ne sont pas d'accord, les commentateurs du Moyen-Âge, il y en a qui disent, Haaretz c'est toute la terre. D'autres disent non, c'est uniquement quand on parle de la terre c'est la terre d'Israël. Donc ce n'est pas clair, quand on le vivra, j'espère qu'on ne le vivra pas, en tout cas dans le mal, qu'on n'en aura que la bonne option, mais si hélas la mauvaise option doit se réaliser, donc qu'est-ce qui se passera? Il arrivera que dans tout le pays, donc dans toute la terre d'Israël ou toute la terre, le globe, dit l'Éternel, deux tiers seront retranchés et périront, et qu'un tiers seulement y restera en vie. Donc une guerre terrible, ou une épidémie terrible, qui sait? Et ce tiers, le dernier tiers qui va survivre, je le ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je prouverai qu'on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et moi j'exaucerai, je dirai, c'est là mon peuple, et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc ce dernier tiers, lui aussi, devra montrer qu'il est proche de Dieu. Il va crier vers Dieu, c'est là, l'Éternel est mon Dieu. Il invoquera mon nom, et moi je l'exaucerai. Fin chapitre 13, début chapitre 14. Là, le chapitre 14 va en fait expliquer comment va se passer ce mauvais scénario de Gog et Magog. On l'a dit, Gog et Magog vient de sa résidence du nord, de l'extrémité du nord. Il arrive avec des peuples nombreux en terre d'Israël. Entre parenthèses, c'est très très actuel, parce que c'est marqué clairement que dans d'autres prophéties, que Gog et Magog veulent Jérusalem. C'est ça, la grande bagarre à la fin des temps sera Jérusalem. Une prophétie qui dit que je ferai de Jérusalem une pierre soulevée, une pierre dure à soulever pour tous les peuples du monde. Tout celui qui tentera de la soulever s'écorchera cruellement. Ça veut dire qu'il y a un problème ici insoluble. C'est un lieu saint pour le même endroit, vraiment, et est un lieu saint pour les Arabes, l'islam, pour les Juifs et aussi pour les chrétiens. À l'époque, Bill Clinton avait proposé qu'on dise que l'esplanade du temple, le millimètre supérieur, soit pour l'islam et dessous pour les Juifs. C'est impensable. C'est une solution qui n'est pas une solution. Donc ici, il y a un problème. Donc ces peuples arriveront sur Jérusalem. Ça peut être une guerre, ça peut être aussi une intervention internationale, comme déjà beaucoup de présidents d'État ont dit, nous voulons une intervention internationale, faire de l'internationalisation de Jérusalem. C'est tout à fait plausible. Donc ça peut se faire dans la paix, ça peut se faire aussi très très durement. Le scénario pénible, le voici ici donc prévu éventuellement dans Zacharie 14. Voici venir un jour de par l'Éternel où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l'attaquer. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violentées. La moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la population ne sera point arrachée de la ville. Alors, et je rajouterai alors seulement, après toutes ces souffrances dont on ne connaît pas l'intensité et la longueur, l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ses peuples, comme jadis il guerroya au jour de la rencontre. Ce jour-là, etc. Et c'est le dévoilement de Dieu. Donc on a deux scénarios. Est-ce qu'on a vu le bon ou le mauvais? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est clair que dans le traité Sanhédrin, page 98b, c'est marqué ainsi. Les élèves de Rabbi Elazar l'ont demandé. Peut-être un peu autrement. On va commencer un peu au début. Au début, ça commence comme ça. Ça commence. Il y a deux rabbins. Un qui s'appelle Oula. C'est un moyen très, très bien, enfin, mnémotechnique pour se souvenir de son nom. Oula, du genre oulala, d'accord? Oula et Rabba qui disent que le Messie vienne, je vais être présent pour le voir. Tellement ça va être terrible. C'est comme un accouchement. Alors on parle de douleur d'enfantement, douleur d'accouchement, c'est terrible. Donc ils ont dit Oula et Rabba qui viennent, je vais être là-bas pour le voir. Ça va être tellement terrible ce qui va précéder la venue du Messie. Rabbi Yochanan dit qui viennent et que je mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Je veux dire, dans la plus grande matérialité, dans la plus chose la plus puante, d'accord, même dans ces conditions terribles, je suis prêt à recevoir le Mashiach. Abaye était un élève de Rabba. Rabba qui a dit qu'ils viennent, je ne veux pas être présent, je ne veux pas être là-bas. Abaye pose la question à Rabba. Je ne comprends pas Rabba. C'est marqué. Les élèves de Rabbi Elazar ont demandé à Rabbi Elazar, que doit faire un être humain, un homme, pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie, de Gog ou Magog? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Et Rabbi Elazar leur a répondu, qu'il soit Yaasok Betora ou Bigmul Khatim, qu'il soit affairé en étude de Torah et dans l'entraide, la bienfaisance. Pas faire la bienfaisance et faire de la Torah, être affairé. Quelqu'un, il a une affaire, mais il y pense jour et nuit. Il va dormir, il y pense. Au milieu de la nuit, il se réveille, il y pense. Il dort le matin, il y pense. Il y a la prière, il y pense. Il y pense sans cesse. Torah, bienfaisance. Or toi, Rabba, tu as ça et ça. Rabba est un des grands sages du Talmud. Il avait un grand Torah et il est connu qu'il faisait beaucoup de bienfaisance. Donc tu as les deux. A dit Rabba, oui, c'est vrai ce qu'a dit Rabbi Elazar, mais il y a aussi une petite condition, un petit astérix comme ça en bas. Shema igrom achet, j'ai peur du péché. Peut-être y aura-t-il des péchés. Si Amisraël a des péchés, alors même la Torah, même l'entraide n'est pas suffisante. Donc il faut rajouter encore, il faut tchouva. Un péché, ok, un péché, mais c'est réparable. Si quelqu'un dit, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi d'arrêter, sincère, c'est effacé. C'est effacé. La condition sine qua non, Maïmonide amène beaucoup de prophéties, à la fin il conclut par ces prophéties, nous voyons très clairement, la condition sine qua non que le Mashiach vienne est la tchouva. Et vous me direz, dit Maïmonide, peut-être que jamais on fera tchouva, la Torah a promis qu'on fera tchouva à la fin des temps. Et immédiatement on sera sauvé. Alors comment faire tchouva de force? Tchouva de gré, je comprends comment faire tchouva de force, quelqu'un qui ne fait pas tchouva. Alors on l'emmène Gog ou Magog. À Dieu le plaise. Donc il y a une menace ici de danger. Alors à nous de ne pas être idiots. C'est pas... On doit dépasser maintenant la dialectique carotte-bâton. Récompense-punition. On doit comprendre, et ce n'est pas compliqué aujourd'hui, que la Torah est d'origine divine, on peut le prouver par A plus B. Le monde occidental part complètement en catastrophe. Il n'y a plus rien. Il n'y a que dépression, drogue, débauche, profit, tous les côtés, mais le profit matériel, au bout d'un moment, ça amène une dépression morale. Il y a beaucoup de gens qui sont en crise morale. Pourquoi je vis? Alors ils prennent ou ils font tchouva, ou ils prennent des antidépresseurs. La France est le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde. Je crois qu'un quart des Français prennent des antidépresseurs. Complètement fou. Donc, où on fait tchouva intelligente, et on comprend. Et c'est clair, je peux dire, je crois que je ne me trompe pas, que la seule société occidentale moderne qui marche plus ou moins, c'est la société israélienne orthodoxe. Avec les millions de problèmes qu'il y a. Il y a des millions de problèmes, mais compare, fais une étude comparative sociologique. Regarde combien au milieu de dans le monde occidental, combien de couples qui se trompent. Regarde dans le monde orthodoxe. Il y en a, mais beaucoup moins. Combien qui se droguent dans le monde orthodoxe. Il y en a aussi, mais beaucoup moins. Regarde la débauche. Il y en a, mais beaucoup moins. La délinquance juvénile, il y en a, beaucoup moins. Violence au foyer, il y en a, beaucoup moins. Il y a tout dans le monde orthodoxe, toutes les saletés aussi. Non, beaucoup moins. On n'a pas besoin de faire un séminaire, pas besoin maintenant de prouver par accusé. Regarde, là, t'as 50 ans d'expérience, et là, regarde, la cata. La catastrophe totale. Donc, où on comprend intelligemment, et on dit, ok, c'est comme ça, ben j'avance. Surtout que maintenant, les signes, on va en parler la prochaine fois un peu sur les signes de Gog ou Magog. C'est clair qu'on est très très proche, très très proche. Je ne sais même pas si cette vidéo aura le temps de passer sur l'espace Torah avant qu'on y soit. Et on fait tchouva. Ou bien, on fera tchouva, mais tchouva idiote. C'est-à-dire, comme un gosse, on dit à un gosse, fais tes maths. Le gosse dit à son père, papa, je veux le foot. Que fait le père? Un père, un bon père, un bon éducateur. Il va dire à son fils, il va expliquer. Mon fils, le foot, c'est très important. Il faut aller s'aérer, se dégourdir, très bien. Mais les maths? Demain, tu vas aller acheter une sucette à l'épicerie. Elle coûte 1,50€. Tu vas donner 2 euros. Comment ça fait 2 euros moins 50? Tu vois, tu ne sais pas. Ça va faire avoir. Donc, fais tes maths, après tu iras au foot. Papa, je veux le foot. Le père ne se démonte pas. C'est un bon père, mais il ne va pas se mettre en colère. Un bon éducateur. Mon fils, écoute, demain, tu vas acheter une belle Mercedes. Combien vaut le Mercedes? Je ne suis pas très au courant. On va dire 20 000 euros. D'accord, 20 000 euros. Tu vas donner un chèque maintenant. On va dire, elle coûte 19 966 euros. Tu feras un chèque, 20 000 euros. Il faut la monnaie. Combien ça fait? 20 000 moins 19 966. Ah, tu vois, tu ne sais pas. Fais tes maths. Toi, le Mercedes, on te fait avoir. Papa, je veux le foot. Que fait le père? Il ne se demande pas, il se calme. Écoute mon fils. Le gosse dit, papa, j'ai compris. Demain, je vais aller acheter un vélo. Il coûte 345 euros. Je vais donner un chèque de 400 euros. Je dois faire, je ne sais pas faire la soustraction, je veux le foot. Le père voit que le gosse comprend. Le gosse lui-même a donné un exemple mieux que le père. Si ça ne t'intéresse pas, bien c'est pas actuel, le vélo c'est actuel pour le gosse. Le gosse a donné un exemple encore mieux que le père a donné. Donc, ça ne sert à rien que de mettre un quatrième exemple. Ah pourquoi le gosse, il fait passer maths. La connexion tête, cœur, la tête a très bien compris. Mais là, ça ne passe pas. Entre la tête et le cœur. Le corps, il ne veut pas suivre, le corps veut le foot. Donc le père comprend, ça ne sert à rien de parler à la tête, il faut parler au corps directement. Comment est-ce qu'on parle au corps? Le corps, c'est un hamar, c'est un âne. Un âne ne lui dit pas, sois gentil s'il te plaît, tu veux bien aller me chercher le paquet de... Non. Un coup et t'avances. Tu vois ma main? Alors c'est les maths maintenant et que ça saute. Ou on fera tchouva intelligente, et c'est le moment. De toute histoire juive, il n'y a jamais eu autant de tchouva qu'aujourd'hui, c'est le moment. Ou bien, on fera tchouva de force.